Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 19 octobre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Pourquoi la France d'Emmanuel Macron menace l'Iran? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, un groupe d'élite reçu par le guide suprême de la révolution islamique. Les émeutes ont été maîtrisées en Iran, assure le ministre de l'Intérieur. Et puis un accord de coopération globale entre l'Iran et la Russie sera signé d'ici la fin de l'année en cours, déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Un groupe d'élite reçu, je vous le disais en titre, par le guide suprême de la révolution islamique. Ce mercredi matin, un groupe d'élite et de talents scientifiques iraniens a été reçu par l'ayatollah Khomeini à Husseinie de l'imam Khomeini de Téhéran. Selon le journaliste politique de l'IRNA, cette réunion est axée sur le partage des points de vue d'un certain nombre d'élites avec le leader. Outre un groupe d'élite du pays, les ministres iraniens des sciences et de la santé, ainsi que le vice-président par intérim pour la science et la technologie, sont également présents au rendez-vous. La 12e conférence nationale des élites et des dirigeants adjoints de la Fondation nationale des élites, avec le slogan « Gouvernance d'élite pour l'excellence de l'Iran », a débuté hier mardi 18 octobre avec la participation de 500 élites et agences gouvernementales à Téhéran. Selon le ministre de l'Intérieur, les émeutes ont été maîtrisées en Iran. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré mardi que les émeutes dans le pays ont été contrôlées par les forces de renseignement et de sécurité. Les émeutes et les actes de troubles et de sabotage ont été maîtrisés à travers le pays et les émeutiers ont été arrêtés, a déclaré à la presse mardi le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, indiquant que les rêves des ennemis ne se réaliseraient pas. La plupart des personnes arrêtées ont été libérées. Beaucoup de ces personnes ont exprimé des regrets et déclaré avoir été influencées par la fausse propagande des chaînes de télévision, en particulier des pays liés aux tendances régionales. Il a pointé du doigt à cette occasion l'Arabie saoudite et certains pays occidentaux. Pour le ministre, il est surprenant que dans ces canaux, les questions liées aux émeutes n'en soient pas seulement enseignées, mais également promues et dirigées. Et la nation iranienne a le droit d'exiger ce droit au niveau international, de protester et de demander son procès à son propre moment et dans la situation appropriée. L'Iran blâme Borrell qui a dit « L'Europe est un jardin et le reste du monde un jungle ». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé l'analogie controversée du haut diplomate européen selon laquelle l'Europe est un jardin et le monde une jungle envahissante. La métaphore jardin-jungle découle d'une mentalité coloniale tout à fait inacceptable qui donne à l'Occident le droit d'envahir et d'occuper, a déclaré mardi Nasser Kanani dans un message sur son compte Twitter, après que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ait comparé l'Europe à un jardin et la majeure partie du monde à une jungle. Cette époque est révolue depuis longtemps. La multipolarité est à nos portes. L'Union européenne doit adopter les réalités. Sinon, elle continuera de décliner et de s'estomper, a ajouté le porte-parole iranien. L'Europe est un jardin. Nous avons construit un jardin. Le reste du monde n'est pas exactement un jardin. La majeure partie du reste du monde est une jungle. La jungle pourrait envahir le jardin. Les jardiniers devraient s'en occuper, a déclaré Borrell dans un discours prononcé jeudi à l'Académie diplomatique européenne de Bruges en Belgique. La jungle a une forte capacité de croissance. Les murs ne seront jamais assez hauts pour protéger le jardin. Les jardiniers doivent aller dans la jungle. Les Européens doivent être beaucoup plus engagés avec le reste du monde, a-t-il dit. Sinon, le reste du monde nous envahira par des voies et des moyens différents, a-t-il encore poursuivi. Borrell a déclaré dans une analogie que beaucoup se rattachent à l'histoire européenne du colonialisme, du fascisme et du génocide. À l'accord de coopération globale entre l'Iran et la Russie sera signé, je vous lis en titre, d'ici la fin de cette année. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé la poursuite des consultations entre Téhéran et Moscou dans le but de parvenir à un accord global de coopération entre les deux pays. Notant que la signature de cet accord interviendra à la fin de cette année, soit le 20 mars 2023. Lors des déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères dans un programme documentaire télévisé intitulé « Le champ de la diplomatie », Amir Abdollahian a attiré l'attention sur les réalisations du gouvernement iranien dirigé par Ebrahim Raisi dans le domaine de la lutte contre le coronavirus. Il a déclaré que nous avons pu, en coopération avec le ministère de la Santé, allouer 102 milliards de dollars pour les importations à cet effet. Le ministre des Affaires étrangères a souligné « Nous n'épargnerons aucun effort pour employer toutes les énergies disponibles à l'est ou à l'ouest pour réaliser les intérêts du pays et du peuple iranien ». Il a également évoqué la guerre ukrainienne en disant « L'Iran poursuit ses efforts pour que les deux parties s'entendent sur un cessez-le-feu durable et efficace et reviennent à la table des négociations ». S'agissant du sommet tripartite Iran-Russie-Turquie qui s'est tenu à Téhéran, il a souligné que l'organisation de cette réunion n'était pas absurde, mais plutôt dans le cadre des pourparlers de paix syriens au format Astana. Il devait porter un message régional et international et réaliser des acquis multilatéraux au profit des populations, a-t-il dit. Il a également évoqué des questions non mentionnées concernant les demandes occidentales lors des négociations pour abolir l'embargo avec l'Iran, notant qu'en marge de l'accord nucléaire, nous avons, je cite, « été confrontés aux demandes des Américains de retirer les noms de 60 personnes impliquées dans l'assassinat du commandant martyr Soleimani de la liste noire iranienne dans une démarche injustifiée et nous leur avons explicitement assuré que cette affaire est une ligne rouge. Concernant le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Iran n'autoriserait pas la fermeture par la voie de communication avec l'Arménie et que l'affaire s'est transformée en une manœuvre dans la région. Concernant les derniers développements des négociations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Amir Abdollahian a déclaré « Les Saoudiens ont récemment annoncé qu'ils étaient prêts à tenir une réunion au niveau politique avec Téhéran. Dans l'attente d'accélérer le rythme des procédures pour la tenue du cinquième cycle de pourparlers entre les deux parties, se référant à un certain nombre de pays musulmans, se participant pour normaliser leurs relations avec le régime sioniste, il a déclaré « après les avertissements de la République islamique d'Iran, les affrontements résolus sur le terrain et les réponses des peuples de la région, nous assistons aujourd'hui à un ralentissement des progrès de normalisation de certains pays avec ce régime. Téhéran dément les allégations d'envoi d'armes vers la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a démenti les allégations concernant l'envoi d'armes et des équipements militaires par l'Iran pour être utilisés dans la guerre ukrainienne. Kanani a estimé mardi que de telles allégations sont sans fondement, basées sur de fausses informations et des hypothèses visant à créer une atmosphère politique et à mettre en œuvre les agendas médiatiques de certains pays contre l'Iran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné la volonté de l'Iran de dialoguer avec l'Ukraine afin de dissiper les ambiguïtés et de lever ses accusations. La grande manœuvre des gardiens de la révolution atteindra son paroxysme. Les opérations de la grande manœuvre de puissance qui ont débuté hier dans le nord-ouest du pays atteindront leur paroxysme dans les deux prochains jours. Le commandant de la force terrestre des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Mohammad Pakpour, a déclaré qu'à partir de mercredi, les unités blindées, les forces de commando, les hélicoptères, les drones de la force terrestre des gardiens de la révolution se joindront aux manœuvres. Le commandant militaire iranien a également noté que, dans le cadre de cette manœuvre, les unités et les forces participeront à la zone d'opération. Et ils ont été dépêchés, organisés et retranchés à cet effet. Il a ajouté que, selon les plans précis, le troisième jour, autrement dit mercredi, verra également une nouvelle phase de manœuvre pour atteindre son paroxysme. Il est à noter que les exercices de grand pouvoir de la force terrestre des gardiens de la révolution a commencé lundi dans la zone générale d'Aras, au nord des provinces de l'Azerbaïdjan oriental et d'Ardabil, au nord-ouest du pays. Ces manœuvres interviennent conformément au calendrier annuel annoncé des activités des gardiens de la révolution islamique dans le but d'élever le niveau de préparation militaire de cette force armée de la République islamique d'Iran face aux menaces potentielles sur les frontières. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Pourquoi la France d'Emmanuel Macron menace l'Iran? Ces images que les médias mainstream font défiler de la prison Evin de Téhéran, réputée être celle où sont détenus les agents étrangers directement impliqués dans les émeutes sanglantes de ces dernières semaines, plus d'un analyste tendrait y voir un coup monter, même si le feu serait parti, des cellules où sont retenus les prisonniers des droits communs, et que, par principe, la politique ne devrait pas y jouer un grand rôle. En effet, rien qu'en juger la somme des menaces proférées ces derniers temps à l'encontre de l'Iran, à qui l'OTAN reproche d'avoir exercé son droit souverain de commercer librement avec la Russie, même les plus objectifs des analystes tendraient à faire un lien entre cette apparente tentative de mutinerie à Evin, d'une part, et les agissements otaniens contre la sécurité nationale iranienne de l'autre. Sur la base d'informations largement répercutées dans les médias mainstream concernant l'envoi des drones par l'Iran à l'Ukraine, le ministère français des Affaires étrangères a ainsi déclaré il y a deux jours que l'action de Téhéran constitue une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité ratifié pour entériner l'accord nucléaire, une résolution qui n'est plus puisque l'accord n'est que l'ombre de lui-même. Nous disposons d'un grand nombre d'informations qui pointent vers l'utilisation de drones iraniens par les forces armées russes en Ukraine, a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse quotidienne, sans crainte du ridicule dans la mesure où plus de 100 milliards de dollars d'armement venus de 50 pays de l'OTAN ont déjà alimenté ces 8 derniers mois la guerre inter-save Ukraine-Russie. Mais les menaces à pleine larvée de l'OTAN contre l'Iran n'en restent pas là. Après avoir affirmé aux autorités européennes que la Russie s'était tournée vers l'Iran et la Corée du Nord pour acheter des drones militaires et d'autres munitions de guerre, afin de poursuivre son agression contre l'Ukraine, la France a menacé qu'elle ne laissera pas sans réponse le soutien militaire de l'Iran à la Russie. Dixit. Et quelle forme revêtira cette réponse française à l'Iran? Le ministère français des Affaires étrangères répond: il passerait à l'action en coopération avec ses partenaires de l'Union européenne et en coordination avec eux sur la manière de répondre au soutien militaire de l'Iran à la Russie. Et sous l'article 5 dont parle la France, un article 5 brandi déjà par l'Albanie à la suite d'une curieuse cyberaccusation contre l'Iran qui a provoqué la rupture de liens Tirana-Téhéran. Pour l'heure, les Atlantistes, bien que déçus de l'écho bien tiède de leurs agissements auprès des Iraniens, qui ont bien rapidement séparé leur rang des casseurs et émeutiers, et ce, dès le lendemain du décès de la jeune Iranienne Mahsa Amini, semblent ne pas vouloir aussi loin. À cet égard, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, tout en annonçant jeudi une nouvelle aide militaire à l'armée ukrainienne, a déclaré que les pays membres de l'OTAN enverraient des technologies et des équipements pour contrer les drones que la Russie utilise dans ses attaques contre l'Ukraine. Mais est-ce facile? Pas vraiment. Le vendredi 14 octobre, le chef de l'état-major US a appelé les 50 pays de l'OTAN à envoyer tout ce qu'ils possèdent de radars et de missiles intercepteurs en Ukraine pour y créer une DCA multicolore visant à faire face aux drones russes. Mais suffisant alors que les 40 premiers jours de l'apparition des drones kamikazes sur le champ de la bataille ont été soldés par un changement de donne militaire. Même les experts les plus optimistes au sein de l'OTAN répondraient par négation, vu que les drones made in Iran ont déjà mis à l'échec les États-Unis et leurs acolytes en Irak, au Yémen, à Gaza, dans le Golfe Persique. Ce qui fait des tentatives de déstabilisation telles celles qui poussent les agents de DGSE en Iran l'unique alternative. Mais ceci, c'est pour côté otanien de la chose, l'Iran, lui, va-t-il rester les bras croisés? 3 semaines d'opérations consécutives des forces armées iraniennes contre les terroristes et les séparatistes kurdes que soutiennent à la fois CIA, Mossad, DGSE, prouvent le contraire. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a affirmé samedi 15 octobre que la République islamique poursuivrait ses opérations défensives contre les groupes terroristes séparatistes soutenus par les États-Unis et Israël, retranchés près de frontière nord-ouest du pays, dans la région du Kurdistan irakien. Depuis la victoire de la révolution islamique iranienne en 1979, les séparatistes, qui sont soutenus par les États-Unis et d'autres ennemis, opèrent des actions anti-iraniennes dans la région du Kurdistan irakien, a déclaré à l'agence de presse Tasnim News le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Boreri. Cependant, leurs bases sont devenues, a déclaré le haut commandant des forces armées iraniennes, un complexe opérant contre notre sécurité nationale avec le soutien américain, a-t-il encore souligné, notant qu'actuellement, il y a 1200 bases militaires dans le nord de l'Irak, avec 3000 terroristes armés qui agissent contre nous. L'Iran a averti à maintes reprises les autorités locales du Kurdistan irakien qu'il ne tolérera pas la présence des terroristes, la fabrication de bombes et les activités militaires de groupes terroristes le long de ses frontières. A renchéri le haut commandant du pays, insistant sur le fait que les opérations antiterroristes se poursuivraient jusqu'à ce qu'il faudrait pour débusquer et désarmer les terroristes. C'est dire que les opérations antiterroristes se poursuivront, s'amplifieront et s'étendront non seulement aux terroristes, mais aussi à leurs tireurs de ficelles.
Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors nous aurons des invités, des experts de questions internationales qui vont développer la question du Mali. Justement le Mali qui avait été donc affaibli économiquement et militairement par la France pendant plus de 8 ans. Et après l'expulsion de ces derniers, le Mali a pris un certain nombre de mesures pour devancer donc et progresser dans différents domaines, dont industriels et bien sûr sécuritaires. Parmi ces mesures, on peut citer la synchronisation de la police et l'armée, ce qui a rendu en effet très en colère l'Occident, surtout l'axe US-L'OTAN, car ces mesures permettent donc justement au Mali donc de progresser et particulièrement de faire régner la sécurité et la stabilité dans ce pays. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales et professeur à l'université depuis Vaucluse. M. Bernard Cornu, bonjour.
Oui, bonjour. Je ne suis plus professeur à l'université, même si j'ai fait quelques conférences. Je suis à Paris ces jours-ci.
D'accord. Bonjour. En tout cas, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toi, Monsieur Cornu, qui me rappelait lors d'une conversation de la dernière émission qu'il était déjà à mes côtés en Libye en 1996. C'est donc un plaisir de débattre avec lui.
D'accord, donc un débat prometteur, donc, Monsieur Luc Michel. Et justement, ma première question va s'adresser à vous. Alors, le gouvernement malien a pris un certain nombre de mesures pour donc en finir avec l'influence étrangère et particulièrement celle de la France et l'axe US, l'OTAN bien sûr. Et parmi ces mesures, on peut citer bien sûr la synchronisation de la police et l'armée. Pourquoi le gouvernement malien a pris de telles décisions?
Il y a 3 remarques à faire. Tout d'abord, les adversaires de la militarisation de la police malienne, ils sont mal pris de critiquer cette mesure puisque la militarisation des forces de police depuis 20 ans, c'est une mesure qui est venue des États-Unis et qui concerne maintenant toutes les forces de police occidentales. En particulier, il y a le déploiement de techniques militaires de combat de rue et il y a le déploiement d'armes de guerre auprès des forces de police. La seconde chose qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, le Mali n'en a pas encore fini avec les forces compradores qui sont liées à l'ancien occupant occidental, en particulier à la France et aux États-Unis. La troisième chose qu'il faut dire, c'est que le Mali, depuis qu'il a chassé Barkhane et s'est détourné de la France, s'est tourné vers la Russie. Il a conclu des accords sécuritaires avec la Russie. Il collabore avec le contre-espionnage russe de GRU et les paramilitaires sont déployés au Mali. Il faut comparer avec ce qui s'est fait en Centrafrique. Le territoire de la Centrafrique a été reconquis à 95% par les forces du président Touadéra, qui n'occupait même pas tous les quartiers de sa capitale il y a encore 4 ans. Et ça a été fait en déployant des forces militarisées encasernées sur tout le territoire national. Le Mali a besoin de ses forces militaires, paramilitaires et policières militarisées de façon à pouvoir occuper tout le territoire national, en sachant qu'il est en train de récupérer les 2/5 du territoire national qui avait été abandonné par la France aux terroristes d'Acmi et des Touaregs. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Bernard Cornu. Alors, M. Cornu, que pensez-vous donc de ces mesures qui avaient trouvées par M. Luc Michel?
L'analyse de la situation politique interne et aux troubles qui ont lieu au Mali, il faut réfléchir à l'origine de ces troubles qui remontent à très loin et à très large. Pourquoi ? Parce que je connais un peu le Mali et les pays des environs. Il y a une très grande différence de prix des carburants entre l'Algérie ou la Libye, où ils sont très bas, pays pétroliers, et les pays du Sahel, où actuellement ils dépassent 1 euro, 1,20 euro. C'était aussi très bas aussi au Niger. Donc il y avait depuis très longtemps, depuis des décennies, des contrebandes. Et ceci développe des mafias, de la corruption aux frontières. Et une fois que la contrebande de carburant est établie, les réseaux mafieux utilisent ces connexions et ces modes de transport pour transporter des armes, de la drogue, des travailleurs immigrés, étrangers. Il faut rajouter aussi quelque chose qui s'est passé dans les années 79, quand les pays arabes de la péninsule arabique sont très riches. Ils sont venus en avion, puis après utiliser des tout-terrains, pour chasser la gazelle et aussi trouver des filles. Donc tout ceci a développé des réseaux très puissants face à des clients très très riches, et ceci aussi a contribué à développer non seulement au Mali mais au Niger, en Haute-Volta et sur les pays de la côte du golfe d'Abidjan, du Togo, de Dahomey, des mafias et puis donc le trafic d'armes. C'est pour ça, et ceci se rajoute évidemment, la revendication d'autonomie des populations Touareg du nord de ces pays subsahariens. Et cette rébellion existe depuis plus de 40 ans et il n'y a pas été trouvé de solution ni de la part des pays eux-mêmes, ni la part des coopérations avec les Français ou d'autres pays qui auraient pu essayer d'aider à des évolutions du système politique local, de la constitution, des lois adaptées aux situations régionales, aux situations de vie de ces Touaregs, qui étaient à l'époque encore très mobiles et qui avaient besoin néanmoins d'écoles, de soins. Et il fallait organiser tout ça. C'était possible de le faire, mais ça n'a pas été fait. D'où cette revendication, le mélange de cette revendication d'autonomie régionale et de ces trafics aux frontières à cause de différence de taxation sur les carburants principalement. Voilà. Et donc le problème est régional et il est dommage effectivement que ni l'ONU ni les organisations africaines n'aient attaqué ce problème de la taxation des carburants qui est la mère des contrebandes.
Monsieur Bernard Cornu, quel était le rôle de la France dans cette situation? Est-ce que le fait que la France ait été expulsée donc, du Mali, est-ce que ça n'a pas aidé les choses à la stabilité, justement, le vol du carburant, par exemple?
Si vous voulez, je n'ai pas été sur le terrain pour évaluer les méthodes des troupes françaises mobilisées sur place à l'appel du gouvernement d'alors, du temps de François Hollande. Mais c'est vrai que la presse a rapporté des exactions, des difficultés. Et de toute façon, une armée étrangère dans un pays, ça ne peut pas fonctionner, que ce soit volontaire ou que ce soit à la demande, disons, ou à ce soit une armée d'occupation, il y a forcément des populations qui ne veulent pas de ça et qui réagissent parfois violemment contre ça. Donc, les évolutions politiques, les insatisfactions face à la gestion des contrebandes et du terrorisme, du trafic d'armes et d'autres trafics, ont fait que l'impatience du gouvernement a fait qu'elle a demandé le départ de ces troupes françaises de Barkhane. Donc, je peux seulement parler de la coopération civile que menait la France. J'ai fait quelques missions au Mali, notamment sur la gestion de l'électricité, mais j'ai travaillé de très près, j'ai circulé à moto avec les releveurs Donc je connaissais bien le terrain, et d'ailleurs le directeur malien avec qui j'ai affaire dit « Monsieur Cornu, vous connaissez maintenant mieux le Mali et son problème d'électricité que la compagnie française, la grande compagnie française qui est là depuis plusieurs décennies et qui vit dans un milieu, dans une villa riche avec une piscine et qui connaît très mal la situation du Mali. » Je crois, j'ai déjà cité à cette antenne le problème que j'avais identifié aussi des frigos. Le Mali importait des frigos d'occasion, rejetés par l'Occident et même par la Russie, j'en ai vu. Et ces frigos consommaient énormément, 3 ou 4 fois plus que devrait consommer un frigo moderne, bien isolé, adapté à ce climat tropical et à cette chaleur du Mali. Donc vous voyez ce genre d'erreur, de problème très pratique qui affecte la situation économique et sociale des gens, fait qu'on peut comprendre un peu le ras-le-bol des populations du Mali et d'autres pays face aux coopérations occidentales qui souvent sont mal ciblées, pas assez pratiques et souvent aussi trop chères.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir et connaître votre opinion?
Oui, parce qu'il faut compléter ce que dit le professeur Cornu. Il y a depuis la fin des années 1960 des problèmes entre les Touaregs et l'État central. Mais tout a été aggravé volontairement par les Américains et les Français à la suite de la destruction de la Jamaïque libyenne en 2011. À cette époque-là, les Touaregs étaient employés par la Légion islamique de Kadhafi. Ils se sont retrouvés après la mort du guide libyen orphelin. Et à ce moment-là, les généraux américains de l'Africom et les généraux français leur ont permis de traverser 3 pays avec armes et bagages. Parmi les armes, il y avait des véhicules blindés, il y avait des missiles anti-chariots, anti-hélicoptères, et ils ont fait leur jonction, ce que prévoyait le service secret avec les gens d'ACMI. C'est de là qu'est née la rébellion, justement malienne. Il y a eu un scénario à la Libyenne qui a été développé au Mali et en Centrafrique. Au Mali, donc, c'est l'arrivée des Touaregs et leur jonction avec ACMI. Et en Centrafrique, c'est une coalition islamiste qu'on a amenée au pouvoir, la SELECA. La SELECA en Songo, cela veut dire la base en arabe, ça se dit Al-Qaïda. Si on ne sait pas ça, on ne comprend pas ce qu'est la Centrafrique. Le ministre Lavrov, il a résumé tout ça en 2014. Il a dit dans une phrase, on ne peut pas prétendre combattre les islamistes à Bamako et les avoir installés au pouvoir à Tripoli. Voilà ce dont les colonels comme Assimi Goïta ont décidé de mettre fin, et avec l'aide de la Russie, de reprendre le contrôle du territoire national.
Absolument. Merci, M. Luc Michel. Mais je m'adresse à M. Bernard Cornu depuis Paris. M. Cornu, comment expliquer le mécontentement de certains pays occidentaux, enfin l'axe US-LOTAN, face à des mesures prises par le gouvernement malien, dont la synchronisation de la police et de l'armée? Comment ils font pour contourner les sanctions exercées à leur encontre?
Disons, d'une part, je comprends la nécessité très pratique de cette mesure du Mali, de militariser la police pour que, au-delà d'une occupation, de combat de l'armée avec des groupes armés rebelles de différentes natures, mafieux ou touareg, il faut arriver à gérer le pays, à contrôler la situation d'un point de vue civil. Et donc, tant qu'il y a des rébellions armées, des armes, beaucoup dans cette région-là, en partie en provenance du pays, il faut que la police ait les moyens de gérer les situations civiles.
Monsieur Cornu,
S'il y a des reproches de la France et des États-Unis de cet axe US-OTAN, c'est en fait à cause de la situation générale de la région et de la contagion de cette rébellion contre les anciennes puissances coloniales, la France, bien sûr, se propage à d'autres pays parce que le Mali a finalement eu le courage, l'audace ou le culot de demander à la France de retirer son contingent militaire.
Monsieur Cornu, si vous permettez, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qu'ils gagnent, les pays occidentaux, enfin surtout la France, dans l'instabilité et l'insécurité dans ce pays?
Je n'ai pas entendu la question.
Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'ils gagnent, l'axe US-LOTAN, si l'insécurité et l'instabilité régnaient au Mali? Pourquoi ils sont contre la stabilité dans ce pays?
Disons, je ne dirais pas qu'ils gagnent, mais comme l'a bien dit Monsieur Luc Michel, il faut remonter à l'attaque illégale sur une résolution 1773 qui a été abusée, qui a été complètement dépassée. Il y a eu la destruction de la Libye pour des raisons, d'une part, très géopolitiques, parce que le colonel Kadhafi, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 69, peu de temps après, en 70, il a analysé le problème de la gestion du pétrole et il a dit lui-même, à l'époque, en 1971, qu'il faudrait coter le pétrole en un panier de monnaie et non plus avec le seul dollar. Et cette idée s'est propagée dans d'autres pays à l'époque, en Iran, même en Arabie Saoudite, même, et à d'autres pays. Et l'Irak l'a fait, lui, en cotant son pétrole en euros. Que cette volonté conjuguée des grandes puissances, France, Angleterre, États-Unis, de détruire le régime libyen en faisant une attaque qui a été illégale, en fait, a propagé effectivement tout un système d'armes, des stocks d'armes qui ont été propagés. Donc, en fait, la responsabilité d'origine est à ces pays-là, du temps de M. Cameron et Sarkozy, qui ont voulu détruire le régime libyen. M. Sarkozy aussi, pour des raisons très personnelles et qui sont encore à juger. Mais on saura bientôt la vérité complète assez rapidement. C'est parce que ces puissances-là refusent d'assumer leur responsabilité très grave datant de 2011 qu'ils ne souhaitent pas que les régimes africains qui ont souffert de ces conséquences soient stables et puissent plaider en justice, puissent parler dans les médias, expliquer la situation et demander à ces pays-là des dédommagements pour recouvrer leur stabilité et mettre fin à ces trafics, à ces usages des armes.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, la même question à vous. Qu'est-ce qui gagne l'axe US-LOTAN dans l'instabilité ?
Écoutez, les Occidentaux ne sont pas victimes de la situation. Ils en sont les bénéficiaires et ils l'ont organisé. Au Mali, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a surtout de l'uranium de plus grande qualité que celui du Niger. Voilà ce qui explique la présence des Américains et des Français. Les djihadistes, ce ne sont pas des ennemis de l'Occident, ce sont des alliés tactiques. Le djihadisme sert de prétexte à l'ingérence militaire occidentale et au pillage du pays. Voilà ce qui est en train de se passer. Au Mali, en 8 ans, les Français ont eu 63 morts. En 1960, au Vietnam, les Américains, pendant la même période, ont eu 100 000 morts, c'était une vraie guerre. Mais la soi-disant guerre au terrorisme est une comédie, un théâtre qu'on dresse devant les populations africaines pour venir les piller, les spolier. Voilà ce qui explique leur colère, parce qu'aujourd'hui, le roi est nu. Les Français, les Américains, ils apparaissent comme s'ils sont des occupants étrangers.
Oui, mais M. Luc Michel, un mot tout de même sur la Russie. Depuis que la Russie est influente dans ce pays, ils ont tué plus de terroristes qu'ils ont tué en 8 ans la France.
Écoutez, la Russie est arrivée via le Soudan à l'issue de la guerre de Syrie en 2015. Il s'est ensuite tourné vers la Libye. Il a aidé diplomatiquement le Burundi et puis il s'est dirigé avec des firmes paramilitaires vers la Centrafrique fin 2017 et aujourd'hui vers le Mali et le Burkina Faso. Ce que la Russie recherche, elle est également présente dans 14 pays africains où elle dispute la situation aux Occidentaux. Dans ces pays, il y a le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Mozambique ou l'Éthiopie, par exemple. Ce que la Russie recherche, ce n'est pas des richesses, puisque les ressources matérielles, l'uranium, le gaz, le pétrole, l'État continent qu'est la Russie en est riche comme l'Afrique. Ce que la Russie recherche lorsqu'elle est revenue à partir de 2015 sur les champs de bataille de la guerre froide, comme disent les Américains, ce sont des alliés géopolitiques dans l'optique de la future Troisième Guerre mondiale. Bien entendu, la condition évidemment pour que l'Europe ne soit plus alliée de l'Occident, c'est de rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale des États africains. C'est ce que fait la Russie aujourd'hui et c'est ce qui explique la colère surtout des Américains, mais également la colère des Français. La colère des Français, c'est une conséquence, une séquelle de la déstabilisation américaine.
Monsieur Cornu, est-ce qu'on peut connaître votre opinion là-dessous, je vous prie?
Bien sûr, celui que Michel a cité, le respect de l'intégrité des frontières, et il faut quand même dire que toutes ces frontières ont été établies par les puissances coloniales, dépendance, et on peut comprendre qu'il y ait des revendications d'autonomie, de régionalisation dans certains pays pour des raisons ethniques, linguistiques, religieuses. Donc il faudrait que l'ONU s'attache un peu à ça pour trouver les solutions constitutionnelles ici et là, pour calmer ces revendications, pour satisfaire ces revendications régionales qu'il y a un peu partout dans ces régions. Et encore une fois, pour faire cesser les tarifs, il importe qu'il y ait une convergence des taxes sur les carburants, que la contrebande des carburants est très facile et elle enrichit beaucoup de mafias, elle génère la corruption. Tant qu'elle est là, ça génère des contre-choses. Donc pour calmer la situation, je pense que cette coopération internationale sur la fiscalité des carburants est essentielle.
Oui, Monsieur Luc Michel, pour terminer, les pays occidentaux, enfin ceux qui sont influents au Mali, est-ce qu'ils vont rester les bras croisés ou bien ils vont prendre des mesures pour à nouveau donc, se renifler dans les affaires intérieures du Mali et peut-être bien être bénéficiaires?
L'Occident est pour le démembrement des États et la création de petits États non viables. Il y a eu 5 périodes, ce qu'on appelait le Grand Moyen-Orient de Bush 2, qui allait en fait du Maroc à l'Asie centrale. Ensuite, il y a eu le printemps arabe d'Obama, le printemps africain en 2014, la nouvelle politique africaine de Tropé Bolton en 2018. Et aujourd'hui, il y a un nouveau printemps africain qui est organisé par Biden, qui est en cours d'organisation. Le but de cela, c'est d'arriver à 35 nouveaux États en Afrique et au Proche-Orient. La Russie, elle développe une théorie géopolitique différente. C'est le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États, et c'est la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Voilà donc pourquoi le choc est évident entre l'Occident et la Russie. Maintenant, l'Occident ne se laisse pas faire. Les Américains sont en pleine contre-offensive et les Français ont démarré celle-ci. Parmi ceux-là, il y a un train de nouvelles lois sanctions contre les États africains qui veulent collaborer économiquement avec la Russie. C'est une loi qui est en train d'être votée au Sénat américain qui va viser 37 pays africains. Il y a la création dans la guerre de la communication d'un centre spécialisé qu'on appelle le Global Engagement Center qui est fait par le State Department et le Pentagone. Enfin, évidemment, il y a le déploiement des missions militaires de l'Africom. La France a continué. Elle a décidé de confier la guerre de communication à l'armée française et plus aux médias d'État. Et elle est en train de créer un mouvement d'organisation de la société civile pour fracturer les États africains, notamment un forum des ONG qui est imité des méthodes américaines.
Tout à fait.
Il ne faut donc pas croire que les Occidentaux vont se laisser dépouiller par la Russie ou rétablir l'autonomie des Africains. Ils vont se battre bec et rond pour que ça n'arrive pas. On en a l'exemple déjà actuellement d'ailleurs dans la Corne de l'Afrique avec le Soudan et l'Éthiopie, qui sont les États qui avaient déjà évidemment tenté de recueillir leur souveraineté. Absolument. Dès les années 2017-2018. Des présidents renversés comme Omar el-Béchir par Donald Trump ou comme Abiy Ahmed, qui est sous l'objet d'une guerre civile, ce sont les premiers qui avaient tenté le mouvement. Aujourd'hui, il y a Touadéra, Assimi Goïta, le capitaine Traoré au Burkina Faso.
Absolument.
Les étapes suivantes, évidemment, ce seront probablement le Cameroun et le Tchad. Il faut retenir qu'il y a un État pilote dans la collaboration avec le Bloc de l'Est, la Russie, mais aussi l'Iran, c'est la Guinée équatoriale. Dès 2015, le président Biagnemad Bassongo a fait des accords militaires avec la marine russe. Rejoint l'OPEP. Il a participé à l'organisation des États africains producteurs de gaz. Et enfin, il a fait des accords avec la Chine. En ce moment, il est l'objet, lui et son fils, d'une vaste entreprise de déstabilisation.
Absolument.
Qui est menée principalement par la France.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Monsieur Bernard Cornu qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La stratégie du Kremlin pour provoquer l'effondrement de l'Occident. Vous vous étonnez que la Russie ne riposte pas vigoureusement aux diverses attaques présentées comme substantielles par les Occidentaux ? Sabotage des pipelines Nord Stream 2, assassinat de Daria de Guina, attaque du pont de Crimée. Vous vous étonnez que la Russie ait d'elle-même stoppé en mars dernier l'offensive de Kiev, alors qu'il était évident pour tout le monde qu'elle pouvait prendre la capitale sans problème puisque l'Ukraine n'avait à ce moment aucune aide occidentale. Vous vous étonnez que la Russie n'utilise pas la totalité de la gamme de ses armes. On sait que les chars Armata ne sont pas au combat. Vous vous étonnez que la Russie ait appelé 300 000 réservistes alors même qu'elle n'a envoyé en Ukraine qu'environ 15% de ses forces militaires d'engagés. Vous vous étonnez que la Russie n'ait pas encore liquidé Zelensky. Il n'y a pourtant rien d'étonnant à ceci si on se rappelle les interventions de Vladimir Poutine où il explique les raisons de l'opération militaire en Ukraine. La raison est un combat contre non pas l'Ukraine en elle-même, mais contre le système occidental actuel qui, pour assouvir ses objectifs et d'hégémonie mondiale, doit détruire la Russie. L'Ukraine est le terrain où se joue ce combat, rien de plus. Que se passerait-il si les forces russes avaient pris Kiev en mars? Que se passerait-il si ils avaient déployé toutes leurs forces pour prendre la totalité de l'Ukraine? La Russie se serait agrandie avec de nouvelles frontières. Rien d'autre n'aurait changé. Les pays occidentaux continueraient leur dictat mondial en distribuant menaces et sanctions. Qui est la victime du sabotage du Nord Stream 2? Les pays d'Europe. La conséquence sera un effondrement économique grandiose. Qui est la victime économique de la poursuite des combats en Ukraine? Les pays occidentaux, qui envoient des milliards d'euros et de dollars en cash et en armement. Leur budget, déjà en énorme déficit, plonge dans les abîmes. L'inflation à deux chiffres frappe douloureusement les citoyens qui n'auront même plus de quoi se chauffer, voire de quoi manger. Les entreprises ferment par centaines et le mouvement va s'amplifier dans les mois qui viennent. Le chômage va donc augmenter et tout est réuni pour une situation explosive. De plus, par leur propre aveu, leurs réserves d'armement sont maintenant quasiment épuisées, ce qui est un point important si la guerre devait s'étendre. Qui est la victime monétaire de la poursuite des combats en Ukraine? L'euro a perdu un tiers de sa valeur. Les pays non soumis à l'Occident sont en train d'abandonner le dollar. Le rouble est maintenant employé dans tous les pays achetant gaz ou pétrole à la Russie. Qui est la victime politique de la poursuite des combats en Ukraine? Les pays occidentaux qui commencent à se déchirer. Plusieurs pays d'Europe prennent leur distance avec les autres, préférant à juste titre défendre leurs intérêts plutôt que ceux des Américains à travers l'Ukraine. Le projet de gouvernance mondiale qui a été lancé à travers la crise du pseudo-virus COVID se trouve donc en mauvaise posture dans de telles conditions. L'unité mondiale nécessaire à ce projet explose, un nouveau pôle émerge autour de la Russie, bien loin d'être isolé, comme le prétendent les Occidentaux. Ne pas mettre de point d'arrêt à la guerre, c'est donc favoriser un effondrement, au moins partiel, sinon total, des pays occidentaux, et mettre en échec le projet de gouvernement mondial. Dans cette hypothèse, le placement des forces russes en position de défense s'explique. Les pertes russes sont minimes alors que, dans le même temps, l'artillerie cause d'énormes dégâts aux forces ennemies. L'OTAN alors organise des opérations visant à saper la confiance des citoyens russes dans leur gouvernement. Les bombardements quotidiens du centre-ville de Donetsk vont dans ce sens. L'attaque du pont de Crimée est dans cette optique. Elle frappe un objectif chargé de symbolique, même si les dégâts n'ont provoqué l'interruption du trafic qu'une douzaine d'heures. L'assassinat de Daria Dugina va dans le même sens. Elle sera vengée en temps voulu. La Russie répond toujours à ce genre de choses. Il est fortement probable qu'il y aura d'autres opérations de ce genre, en Russie même, sans que ça change en fait rien à la stratégie du Kremlin dans l'opération militaire. La seule conséquence est la détermination toujours plus forte et le ressentiment général des Russes envers les Occidentaux. Ceci changera-t-il quelque chose à l'effondrement programmé de l'Europe? Bien sûr que non. Le Kremlin devra seulement décider à partir de quel moment les buts sont atteints. Sera-ce lorsque les Français auront pendu Macron? Ou lorsque la Grande-Bretagne sera à feu et à sang? Ou lorsque l'Allemagne sera tombée aux mains de la diaspora turque? Ou lorsque tout ceci sera réuni? Il sera alors temps pour la Russie de terminer la guerre, non pas en négociant, mais en imposant ses conditions. Un retour vers Kiev sera facile. Les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine ne seront qu'un souvenir. L'Europe ne sera plus dans la partie, empêtrée dans ses révolutions intérieures. Les États-Unis, sans leur plateforme européenne, seront impuissants. Étant le nouvel ordre mondial, que le projet de gouvernement mondial ne sera plus qu'un cauchemar qui aura été détruit.
Thank you.